comme toute étude de Paul à Philippiens, chapitre 1. Et les versets 3 jusqu'au verset, les versets 3 jusqu'au verset 11 constituent la prière de Paul. Verset 3 jusqu'au verset 11, c'est la prière de Paul. Nous allons lire ces versets. Philippiens, chapitre 1, à partir du verset 3. L'apôtre Paul est en prison à Rome et il écrit à cette église de Philippe « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. » Verset 8. « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Ceci est la parole de Dieu. Donc verset 3 jusqu'au verset 11, c'est la prière de Paul. Verset 3 jusqu'à verset 8, c'est verset 7, je pourrais dire, c'est un peu l'attitude de Paul dans la prière, les émotions, il parle de sa joie pour les Philippiens. Et puis à partir du verset 9, il dit « ce que je demande dans mes prières ». Donc c'est plus spécifiquement sa requête de prière, ce qu'il demande dans sa prière. Et si nous regardons ce texte ici, qu'est-ce que Paul demande dans sa prière? Qu'est-ce qu'il demande ici dans sa prière? Eh bien, spécifiquement, je crois que ce qu'il demande, c'est que les Philippiens soient capables de discerner ce qu'il y a de meilleur. Regardez comment il écrit verset 9. « Et ce que je demande dans mes prières pour vous, bien sûr, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Mais il dit « Pourquoi ?» Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc le cœur, on pourrait dire, de sa prière pour les Philippiens, c'est qu'ils soient capables de discerner les choses les meilleures. Et qu'est-ce que le discernement ici? Eh bien, j'ai cherché dans le dictionnaire biblique, il dit que le discerner, c'est essayer, apprécier, approuver, éprouver, examiner, sonder. Donc, il faut que les chrétiens soient capables de toutes ces choses-là. Donc, c'est mettre à l'épreuve, examiner pour éprouver et approuver ensuite. C'est ce que l'on faisait, c'est les tests que l'on faisait subir à l'époque aux métaux, pour savoir s'ils étaient authentiques. Parfois, nous, quand on est un peu jeune, on a des pièces de monnaie parfois un peu en plastique et puis d'autres qui sont des vraies pièces de monnaie. Qu'est-ce qu'on fait? On met dans la bouche et puis on fait comme ça. Juste pour voir si ça casse vite, c'est une pièce en chocolat ou du plastique. Si ça tord, c'est du plastique. Mais si ça résiste un peu, on dit qu'il y a des chances que ce soit du vrai. Eh bien, ici, ils avaient des tests qu'ils faisaient subir, particuliers aux métaux, pour les éprouver et puis après les autres. Les certifier. Donc l'apôtre, quand il dit ici qu'il prie pour que les chrétiens puissent discerner, c'est qu'ils soient capables de tester les choses, de les éprouver et ensuite de les approuver. C'est ça qui est contenu dans ce sens. Mais notez aussi que l'apôtre Paul parle ici de discerner les choses les meilleures. Il ne parle pas simplement de discerner, de faire un test pour éprouver et approuver, mais après pour pouvoir choisir les choses qui sont les meilleures. Et c'est quoi les choses les meilleures? C'est plus que de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est pas très, très compliqué. C'est ici un discernement qui permet de discerner entre ce qui est bien et ce qui est bien. C'est-à-dire entre ce qui est bien, choisir le meilleur de ce qui est bien. Et ça, c'est déjà plus difficile. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul prie pour cela. Quelqu'un a dit que, c'est un proverbe français, on dit que le bien est l'ennemi du meilleur. C'est-à-dire quand on se contente simplement de choisir ce qui est bien, on peut passer à côté de ce qui est meilleur. Et donc, et c'est ça qu'on pourrait dire, c'est un peu l'idée ici qui est développée, c'est que le chrétien doit s'exercer à choisir non pas seulement ce qui est bien, mais dans ce qui est bien, ce qui est meilleur. Et Paul dit qu'il prie pour le discernement du meilleur. Donc là, le titre de notre méditation ce matin, c'est « Discerner les choses les meilleures ». Et premièrement, je voudrais vous faire voir, chers frères et sœurs, que ce que Paul, la prière de Paul nous dit, que discerner le meilleur est une chose extrêmement importante pour le chrétien. Donc l'importance de discerner le meilleur. Et on doit prendre conscience, bien sûr, que ce discernement n'est pas quelque chose d'accessoire ou d'optionnel. Le chrétien ne doit pas se permettre une vie où il choisit comme ça, au petit bonheur la chance, comme on dit, mais il doit peser les choses, il doit les examiner, et il doit faire le choix de ce qui est le meilleur. L'importance de ce discernement est montrée premièrement par le fait qu'il constitue l'objet de la prière de Paul. Paul prie pour le discernement des choses les meilleures. C'est que le discernement des choses les meilleures est d'une extrême importance. On ne peut pas penser, imaginer l'apôtre Paul en train de prier pour des futilités, pour des choses qui n'ont pas d'importance. On ne peut pas penser cela. Et cette prière est une prière qui est inspirée par le Saint-Esprit. Donc à travers la prière même de Paul, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne sur ce qui est important pour le chrétien. Et ici, Paul prie pour que les chrétiens soient capables de discerner les choses les meilleures et choisir les choses les meilleures. Il dit, si on lit dans la version d'Arby, il dit « Je demande ceci ». Cela insiste bien sur le contenu de sa prière. Après avoir exprimé sa joie dans la prière pour eux, il dit « Voilà ce que je demande. Je demande ceci. C'est que votre amour augmente de plus en plus pour le discernement des choses les meilleures. » Et donc cette prière de Paul nous permet de savoir quels étaient les besoins profonds de l'église de Philippe, les besoins importants de l'église de Philippe, mais aussi quels sont les besoins de tous les chrétiens et quels sont nos besoins. Et notre besoin, un besoin en tout cas fondamental que nous avons dans la vie chrétienne, c'est le besoin de discerner les choses qui sont les meilleures. Paul est conscient du dessein bienveillant de Dieu, on l'avait vu, chapitre 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Et Paul prie pour aller dans ce sens. Si Dieu a commencé une œuvre qui nous rend, dans laquelle il nous rend parfait, d'accord, dans laquelle il œuvre, il nous perfectionne, eh bien, Paul prie pour les choses qui sont essentielles à ce perfectionnement. Et par conséquent, le discernement des choses les meilleures est essentiel à ce perfectionnement. Et cette église, bien sûr, n'était pas l'église de Corinthe où il y avait beaucoup de difficultés. Vous vous rappelez, on a étudié la première épître aux Corinthiens. C'est une église dans laquelle on ne voit pas beaucoup de... L'apôtre Paul ne cite pas beaucoup de problèmes. Néanmoins, il cite un certain nombre de choses. Et on voit par la suite qu'il a un certain nombre de corrections à apporter à cette église. Mais avant d'apporter ces corrections, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit quel est le contenu de sa prière pour eux. C'est-à-dire, il dit, voilà ce qui est essentiel, et pour cette chose-là, eh bien, on va corriger ceci ou cela. Donc, il est important de considérer cela ici. Le discernement des choses les meilleures est important parce que Paul prie pour cela. On voit l'importance de ce discernement aussi dans le fait que l'Écriture même nous exhorte à cela. Il y a pas mal de versets, mais on ne va pas les lire tous. Mais dans Romains chapitre 12, verset 2, par exemple, l'apôtre Paul écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. C'est le même mot ici, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Autrement dit, la conformité au monde, à ses pensées, à son évolution, c'est quelque chose qui nous guette, c'est un piège qui nous guette. Et le croyant est exhorté ici à un esprit de discernement des choses, capable de reconnaître la volonté de Dieu. Dans Éphésiens 5, versets 8 à 11, on dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Puis il dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Même sens encore, là, de discerner. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Donc, le nouvel homme qu'est le chrétien ici, il doit être vigilant, bien sûr. Il y a des activités et des œuvres qu'il va mener avec les gens du monde, mais il doit être extrêmement vigilant. Il doit examiner toutes choses. On ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. En tant qu'enfant de Dieu, on doit s'exercer systématiquement à examiner toutes choses. En 1 Thessaloniciens, versets 5, 21-22, l'apôtre Paul dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Vous voyez cela ici encore. Hein? Donc le mal se présente sous de multiples facettes et il sera peut-être parfois facile de le voir parce qu'il viendra avec ses gros sabots. Et puis d'autres fois, ce sera beaucoup plus subtil dans les relations que nous entretenons les uns avec les autres. Eh bien, il faudra être extrêmement vigilant, l'apôtre Paul. Il faudra examiner toutes choses hein, et retenir vraiment ce qui est bon. Donc l'Écriture aussi nous enseigne à plusieurs endroits, et vous pouvez en trouver d'autres, à examiner, à exercer un discernement des choses les meilleures. Mais aussi, je dirais que l'importance de ce discernement est montrée par son effet dans la vie du croyant. Regardez notre verset, Philippiens chapitre 1, verset 9. L'apôtre Paul dit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, mais afin que vous soyez, comment, purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Je vois ça comme la conséquence de la capacité à discerner. Le chrétien qui discerne et choisit le meilleur, eh bien, va avoir une vie qui est va connaître une croissance spirituelle, ici, pure, irréprochable, remplie du fruit de justice. Le terme pur ici désigne le fait d'être trouvé sans faille quand on regarde à la lumière. Il est composé de deux mots dont l'un veut dire soleil et l'autre jugé. D'accord ? Donc c'est jugé à la lumière. C'est un peu ce que faisaient les vendeurs de poterie de l'époque hein, qui, quand ils avaient des vases un peu fragiles qui étaient cassés, ils le recollaient avec de la cire et quand l'acheteur voulait acheter ce vase, eh bien, il prenait le pot et puis il le présentait à la lumière du soleil. Et ça ne résistait pas, la cire ne résistait pas. Enfin, on voyait facilement les failles qu'il y avait dans la poterie. Et donc, les gens, les marchands qui étaient des marchands honnêtes, faisaient certifier leur poterie sans cire, hein, qui a donné le mot sincère, d'accord, sans cire. Donc ici, c'est exactement la même chose. C'est le sens de ce mot ici. Il dit, celui qui est exercé à discerner le meilleur sera fiable. Il sera authentique. Il sera sans cire. Voilà, donc c'est cela. Et puis, le terme irréprochable, ici, c'est le terme qui est utilisé parfois ailleurs pour parler du scandale. Par exemple, en 1 Corinthiens 10, 32, il est dit « Ne soyez en scandale ». C'est le même mot qu'irréprochable ici. « Ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église hein ». Donc, il dit « C'est pourquoi ?» L'apôtre Paul dit « Je m'efforce constamment par une conscience sans... » « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. » Donc, sans reproche. ne peut être qu'une pierre d'achoppement, ne peut être un scandale. Tout ça, c'est le mot qui est englobé par le mot ici irréprochable. C'est-à-dire donc dans la relation qu'il aura avec les autres aussi, celui qui est exercé à discerner les choses les meilleures sera irréprochable. Il ne sera pas une occasion de chute pour les autres parce qu'il se sera exercé à choisir toujours ce qui est le meilleur. Donc il y a ici l'idée d'un progrès, d'un développement du caractère chrétien qui est lié au fait de choisir les choses les meilleures. Il y a une croissance chrétienne qui est liée à l'exercice du discernement. Et parfois, on peut se poser la question, pourquoi on stagne dans la vie chrétienne? Eh bien, cela peut venir aussi du fait que l'on refuse de discerner les choses les meilleures. Parce que Paul dit ici qu'il prie pour ce discernement afin qu'il soit pur, irréprochable et qu'il soit des chrétiens fructueux. Autrement dit, il y a une croissance spirituelle qui est attachée au fait de discerner, d'apprendre, de chercher et toujours de se forcer à discerner, à choisir les choses qui sont les meilleures et les plus excellentes. Donc, l'importance, chers frères et sœurs, de discerner les choses les meilleures. Mais, deuxièmement, je voudrais voir ici les caractéristiques des choses les meilleures, parce que c'est mieux de dire qu'il faut les discerner, mais c'est quoi les choses les meilleures? On pourrait se poser cette question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les choses les meilleures? Ce que l'on peut voir déjà, premièrement, c'est qu'il ne suffit pas qu'une chose soit bien pour en faire le choix. Ce que Paul dit ici, quand il parle du meilleur, ce n'est pas simplement le bien, c'est plus que le bien. Les critères de choix du chrétien dépassent, bien sûr, la seule frontière qu'il y a entre le bien et le mal. Donc, pour comprendre un peu cela, on peut considérer en quoi est-ce que les Philippiens avaient besoin de choisir le meilleur. Si vous lisez toute l'épître aux Philippiens avec cette pensée, vous dites, mais où est-ce que Paul leur fait des recommandations? Et donc, ça peut nous aider à voir dans quoi est-ce qu'ils avaient besoin de choisir les choses les meilleures. Regardez Philippiens chapitre 1, verset 27. Philippiens chapitre 1, verset 27. Paul dit, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires, ce qui pour eux est une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, verset 29, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. » Autrement dit, ici on pourrait dire, ils avaient peut-être besoin de discerner ce qui est le meilleur dans l'attitude à adopter face à la souffrance, par exemple. Paul dit ici, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, d'accord, en saisissant le fait que non seulement Dieu vous a fait la grâce de croire, mais aussi de souffrir. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à la souffrance? Faut-il fuir la souffrance? Faut-il prendre les armes pour se défendre si on est attaqué pour notre foi ici? Et parfois, ce n'est pas des choses qui sont faciles, des choix qui sont faciles à faire. Et donc, face à la souffrance ici, Paul dit, il faut discerner le meilleur et chercher ce qui est le meilleur ici. Ce n'est pas d'abandonner, mais de considérer la souffrance même comme une grâce. Souffrir pour l'évangile, il dit, il faut considérer cela comme une grâce. Et donc, penser de la meilleure manière à propos de la souffrance. Ce n'est pas forcément quelque chose à fuir. Ce n'est pas quelque chose qui dit que, voilà, que Dieu ne nous aime, que Dieu ne nous aime pas. Hein. Dans l'évangile de prospérité, on nous apprend à fuir, n'est-ce pas, la souffrance. L'enfant de Dieu ne doit pas connaître la souffrance, nous dit-on. Ici, Paul dit ici que la souffrance est même une grâce que Dieu nous a faite. Et il faut apprendre à discerner cela de la meilleure manière qui soit. Un deuxième domaine, c'est le domaine des relations les unes avec les autres. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 4, par exemple. Il dit ici, « Si donc il y a quelque consolation, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, S'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment les uns, un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc on peut voir ici qu'il y avait certainement des difficultés dans ce domaine-là, parce que Paul n'aurait pas fait ses recommandations s'il n'y avait pas ces situations à corriger. Donc dans le domaine des relations qu'on entretient les uns avec les autres, eh bien, on a besoin de faire le choix aussi du meilleur, de discerner quelle est la meilleure attitude à avoir. On ne peut pas dire, oh, moi c'est comme ça que je suis, hein, je suis comme ça, je démarre en quart de tour, ils n'ont qu'à se tenir comme il faut. Non, d'accord. Paul dit ici, attention, oui, vous avez vos intérêts à défendre. Ce n'est pas mauvais de défendre ses intérêts. Les parents défendent leurs intérêts pour les enfants, etc. Le mari pour sa femme, la femme pour le mari. Ce ne sont pas des choses qui sont forcément mauvaises en soi. Mais il dit attention, attention. Il faut aussi considérer les intérêts des autres. Il ne faut pas faire les choses par esprit de parti. Parfois, on a des clans et on aime bien être dans des clans. Il y a le clan de ceci, le clan de cela. On se réunit par clan de doctrine, par clan de prédicateurs préférés, par clan d'amis préférés, etc. Et on fonctionne avec des parties. Un peu comme à l'église de Corinthe, vous vous rappelez, moi je suis de Paul. L'autre dit, moi je suis d'Apollos. Et si moi je suis de Céphas, et puis il est plus spirituel, moi je suis du Seigneur, de Christ. Hein. Et on fait ça encore de nos jours, n'est-ce pas? Peut-être on ne dit pas moi je suis de Paul, moi je suis, etc. Mais on a des petits groupes dans lesquels on aime bien être. Et puis voilà, c'est clos, ça c'est nous. Et les autres ne peuvent pas pénétrer. Paul dit ici, il ne faut pas agir avec un esprit de parti. Il faut chercher toujours ce qui est le meilleur. Est-ce que ce que je suis en train de faire quand je constitue ce clan, c'est la meilleure chose que je puisse faire en tant qu'enfant de Dieu? Il faut que je mène cette réflexion. L'Écriture m'exhorte à le faire. Et donc, ce n'est pas mauvais d'avoir un intérêt commun avec d'autres ici, mais il faut se poser la question de ce qui est le meilleur. Et il y a ici, dit Paul, quelque chose de meilleur, c'est de considérer aussi les intérêts des autres et d'être suffisamment humble pour regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, c'est-à-dire le fait de nous tourner pour aussi chercher leur intérêt. Troisième domaine, le domaine des opinions, par exemple. Hein, chapitre 3, verset 15, regardez, chapitre 3, verset 15, l'apôtre Paul dit à un moment donné, il dit, nous tous qui sommes des hommes faits, c'est-à-dire matures, ayons cette même pensée, et si quelques-uns sont d'un autre avis, et si vous êtes, pardon, en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Il y avait dans l'église de Philippe des gens qui n'avaient pas les mêmes avis. Ça existe dans nos églises, surtout en France, les églises françaises, il paraît. Et c'est le général de Gaulle, n'est-ce pas, qui disait que comment peut-on gouverner un pays qui a plus de 300 fromages différents? Chacun a son avis sur un fromage, chacun choisit son fromage. Hein? Donc, c'est ingouvernable un tel pays. Et parfois, il y a des églises voilà, dans lesquelles on a chacun a son avis sur tout. Est-ce que c'est mauvais d'avoir un avis sur les choses? Non, c'est pas mauvais. Mais Paul dit quoi ici? Il dit, il faut choisir ce qui est le meilleur. Et il dit, le meilleur, c'est ici, dans ce cas particulier, eh bien, c'est de marcher, vous voyez, verset 16, il dit, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Il dit pas, reniez vos opinions. Il faut les rejeter, vos opinions. Pour que tout le monde... Il dit, non, il dit, peut-être vous avez des avis différents sur les choses. Bon, c'est pas grave, Dieu va nous éclairer. Seulement, au point où nous sommes parvenus, le meilleur, discerner le meilleur de cette situation, c'est de chercher à marcher d'un même pas ici. Voilà, donc c'est un domaine particulier dans lequel on est encouragé aussi à rechercher le meilleur. Par exemple, en Romains chapitre 14, ne cherchez pas, verset 1, l'apôtre Paul dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions ». Parfois, il faudra simplement ne pas discuter les opinions. C'est ça qui est la meilleure chose à faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, que des fois, il ne faut pas en discuter, mais il y a des moments où il faut être sage et chercher la direction du Seigneur, discerner ce qui est le meilleur. Et le meilleur, parfois, c'est de ne pas discuter, de chercher à avoir le même sentiment. Mais d'une manière générale, je pourrais poser la question, comment distinguer ce qui est meilleur? On a vu quelques exemples dans l'église de Philippe, mais comment discerner ce qui est meilleur? Et je vous invite à regarder dans Romains chapitre 14, où on a un exemple qui caractérise ce qui est le meilleur. Romains chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 13. Romains chapitre 14, à partir du verset 13. L'apôtre Paul dit ici, dans ce texte, Romains chapitre 14, verset 13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Vous rappelez, la pierre d'achoppement, là, ça rejoint le caractère irréprochable. Hein. Déjà, on voit le lien ici. Hein. Je sais que, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, Romains 14, 14, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus dans l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ, de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, et c'est là le verset que je veux là. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. On a deux caractéristiques ici, je crois, qui nous permettent de cerner les choses les meilleures. C'est ce qui contribue à quoi? À la paix et à l'édification mutuelle. Et on est dans une situation ici où l'apôtre Paul traite d'une question de liberté. Certains mangent d'aliments, certains aliments, et puis d'autres estiment que ces aliments sont impurs. Et puis certainement ceux qui, ils ont leur conviction. Pour moi, ça, la Bible n'interdit pas cela, l'Écriture ne l'interdit pas, je ne vois pas pourquoi je ne peux pas manger ma viande, ou etc. Et puis l'autre, il dit, si vous mangez les choses impures, c'est pas correct. Et l'apôtre dit même que parfois, on sent ici que parfois peut-être certains qui avaient des convictions pas tout à fait fixées sur la chose violaient leur conscience et se mettaient peut-être à manger. Donc il y avait une atmosphère qui était pas une bonne atmosphère, parce que certains brandissaient leur liberté pour faire ce qui était autorisé. Et Paul dit, en fait, il dit quoi? Il dit, rien n'est impur. Si vous regardez au verset 20, je crois qu'il dit que tout est pur. Et il dit, j'ai cette conviction de la part du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu ce qu'il dit ici? Je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ que rien n'est impur en soi. Mais il dit, mais le problème n'est pas dans la nature des choses. Le problème est dans le choix que je fais des choses, même des choses qui sont pures, qui ne sont pas impures en soi. Et ce que je vais générer par le choix que je fais des choses qui sont bien. Et donc il dit, il ne suffit pas qu'une chose soit bien pour la choisir. Il faut se soucier de l'impact que cela aura sur les autres. Il faut se soucier de cela. Et il dit donc, si pour un aliment, tu choques ton frère, il y a un problème. Il y a un problème. Il dit, ce que tu dois faire, c'est de rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et voilà, je pense, ce sont ici deux axes qui nous permettent de réfléchir quand nous voulons discerner ce qui est le meilleur. Est-ce que cela va contribuer à la paix ou est-ce que cela va amplifier le désordre? Et dans tous les domaines, la nourriture, mais aussi les relations, les choses que je dis, ce que je pense, comment je parle aux autres, etc. Dans tous ces domaines-là, dans le foyer comme à l'église, est-ce que cela va contribuer à la paix, premièrement? Et puis deuxièmement, est-ce que cela va contribuer à l'édification mutuelle? On ne prendra pas le important de développer ces termes de paix et d'édification mutuelle. Mais l'apôtre Pierre, par exemple, en 1 Pierre 3, verset 10, dit « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Et puis, concernant l'édification mutuelle, vous vous rappelez bien de ces chapitres 8, 9 et 10 de 1 Corinthiens, où l'apôtre Paul traite justement de cette question de manger des viandes sacrifiées aux idoles, où il insiste sur le fait de l'édification, où il dit que la connaissance tue, mais l'amour édifie. Vous vous rappelez de ça? Et 1 Corinthiens 10, verset 23, 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit la même chose. Il dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » Il dit « Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Autrement dit, ce n'est pas le permis qui l'emporte en premier. Est-ce que c'est permis ou non? Parce qu'il dit « Tout est permis, pas de problème, mais tout n'est pas utile. » C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de l'utilité. Et l'utilité ici, c'est le fait de porter ensemble les choses, d'être profitable pour tous, que ce soit une utilité commune. Pour vous donner un exemple, l'apôtre Paul, quand il parle des dons, en 1 Corinthiens chapitre 12, il dit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et le mot qui est utilisé pour utilité commune, c'est le même qui est utilisé dans le verset « Tout n'est mais permis, mais tout n'est pas utile. » Tout n'est pas utile pour la communauté. Donc, il faut se poser la question de la profitabilité pour la communauté, pour l'ensemble des frères et sœurs, avant de dire « je choisis ça parce que c'est ma conviction ». Ce n'est pas comme cela que le chrétien est appelé à agir. Donc les choses les meilleures sont celles qui sont spirituellement profitables, qui tendent vers la paix et celles qui contribuent à l'édification les uns des autres. Et puis troisièmement, je voudrais dire ici, nous poser la question, quel est le moyen donc d'atteindre, de parvenir à ce discernement? On a vu que, premièrement, l'importance de ce discernement, deuxièmement, les caractéristiques un peu des choses les meilleures. Mais comment est-ce qu'on parvient au discernement des choses les meilleures? Et l'apôtre Paul dit dans sa prière comment on y parvient. Regardez au verset, reprenons notre passage, Philippiens chapitre 1 et au verset 9, l'apôtre Paul dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. » Qu'est-ce qui est pour ce discernement des choses les meilleures? L'amour qui grandit en connaissance et en pleine intelligence. Il dit « Je prie que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. » Autrement dit, pour arriver à ce discernement, il faut que l'amour augmente, augmente et augmente encore. Il faut un amour qui abonde. Et donc la prière de Paul nous montre que ce qui est absolument nécessaire au discernement des choses les meilleures, c'est l'amour. Et ici, il traite de l'amour pour Dieu et de l'amour pour les frères et sœurs. D'ailleurs, les deux vont ensemble. N'est-ce pas, dans l'Écriture? Quelqu'un peut-il dire qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, s'il n'aime pas son frère qu'il voit? Donc les deux choses sont liées. Et donc quand il dit ici que votre amour augmente de plus en plus, il parle de l'amour pour Dieu. Il y a des gens qui disent « Ah, j'aime Dieu, les autres, c'est tant pis pour eux, moi j'aime Dieu. » Ce n'est pas possible. D'accord? L'amour pour Dieu et l'amour pour les frères et sœurs doivent augmenter de plus en plus. C'est un amour dynamique. Vous voyez, ça augmente et ça augmente et ça augmente encore ici. Et donc l'amour évoqué ici doit remplir le chrétien s'il veut parvenir à ce discernement des choses les meilleures. Pourquoi? Parce que nos choix, chers frères et sœurs, sont intimement liés à nos affections. Nos choix sont intimement liés à nos affections. Naturellement, l'homme fonde ses choix sur ce qu'il aime, c'est-à-dire sur la relation d'amour qu'il entretient avec lui-même. Comme ça que nous choisissons les choses, n'est-ce pas? On dira, moi j'aime ce style de musique. Moi, j'aime ce style de musique. C'est pour ça que j'écoute cette musique. D'accord. Et ça va être notre critère de choix. Le critère de choix, c'est qui? C'est moi et ce que j'aime. D'accord. On dira, Moi, j'aime le luxe, hein, j'aime les objets de luxe, c'est pas de ma faute, c'est comme ça que je suis, hein, j'ai été créé comme ça, voilà. J'aime les belles choses, voilà. Et puis, il y a beaucoup de moi-je, n'est-ce pas, dans les relations qu'on entretient aux choses. Mais notre texte ici nous enseigne que pour discerner les choses les meilleures, il faut un amour, non pas de soi-même, mais un amour pour Dieu et pour le prochain. Plus j'aime Dieu et mon frère, et plus mes décisions et mes choix seront excellents. Et donc le discernement des choses les meilleures sera lié à la nature de la relation que j'entretiens avec Dieu et de la nature de la relation que j'entretiens avec les frères et sœurs. Si j'aime Dieu, c'est-à-dire si je suis soumis à ses commandements, eh bien je serai soucieux de lui plaire. Et si j'aime mon frère, eh bien je serai soucieux de ne pas être pour lui une occasion de chute et de scandale. Et donc, vous voyez comment l'amour dans ces deux directions sont essentiels pour parvenir à discerner les choses les meilleures. Et c'est pour ça que Paul prie pour que cet amour augmente de plus en plus dans le croyant. Et si nous regardons, revenons à notre passage de Romains, chapitre, ne cherchez pas, mais je vais le lire pour vous, hein. Romains chapitre 14, versets 14 et 15, nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul dit, je sais, on a un lien étroit entre cet amour et le discernement des choses les meilleures, voyez, il dit, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Ça, c'est le fait. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, il dit, tu ne marches pas dans quoi ? Dans l'amour, c'est ce qui est écrit. Hein. Si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Et donc, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Il dit, la chose, elle est pure. Ok, elle n'est pas impure. Lui, quoi qu'elle est impure, mais en fait, c'est pas impur. Ok, on est d'accord là-dessus. Mais il dit, si parce que toi, tu désires exercer ta liberté, tu sais que c'est pas impur, tu peux le manger tranquillement, tu le manges et puis ça le choque. Il dit, là, tu fais une chose, c'est que tu n'agis plus selon l'amour. Vous voyez ? Et c'est pour cela qu'il prie pour que l'amour pour les autres augmente, afin que l'on choisisse de ne pas manger, même si ça n'est pas mal de manger. Vous voyez ça, un peu, chers frères et sœurs ? Donc, s'il n'y a pas d'amour dans le cœur pour Dieu et pour le peuple de Dieu, on va faire des choix inconsidérés. Mais si on aime le Seigneur et on aime les frères et sœurs, ce qui est la même chose, eh bien, on va faire des choix qui plaisent à Dieu et qui édifient les frères et sœurs, plutôt que de les détruire. Et c'est pour cela que Paul prie pour cet amour, un amour croissant, un amour qui excelle, un amour qui déborde, c'est ce que ça veut dire, hein. Votre amour augmente de plus en plus. C'est ce qu'il disait aux Thessaloniciens, il parle aux Thessaloniciens, il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, frère, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et ils sont parfaits dans l'amour, cette église de Thessalonique. Et puis il ajoute, c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Vous les aimez tous. Et il dit, vous n'avez même pas besoin qu'on vous en écrive. Et vous savez ce qu'il leur écrit ? Il écrit, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. C'est tout ça. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour, je veux dire, parce que vous vous aimez, vous avez appris de Dieu comment il faut faire. Et vous faites cela avec tous les frères de la Macédoine. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Mais moi, je vous écris que cet amour abonde toujours plus. D'accord. Parce qu'on a toujours besoin que l'amour de Dieu, pour Dieu et pour les frères, grandisse dans notre cœur, qu'il soit quelque chose de dynamique, qui grandisse. Et puis il dit, un amour qui grandit dans la connaissance. Votre amour augmente de plus en plus en connaissance. La connaissance, disait quelqu'un, est proprement le fondement de l'amour. Quoi que ce soit, quelle que soit la chose sur laquelle nos affections se fixent, nous l'aimons pour une excellence ou supposée, ou une excellence qui s'y trouve vraiment. C'est-à-dire que l'auteur dit ici qu'on aime les choses parce qu'on a une connaissance de cette chose. La connaissance est peut-être fausse de cette chose. Mais on dit que ça va nous procurer du plaisir ou du bonheur ou de la joie. Et c'est cette connaissance qu'on a de la chose et on l'aime pour la connaissance qu'on a de la chose. D'accord ? Autrement dit, il n'y a pas d'amour véritable pour une chose, pour une autre, sans connaissance. Il n'y a pas d'amour véritable de quelqu'un même sans connaissance de cette personne. Imaginez un homme qui dit qu'il aime sa femme et puis il ne sait pas du tout ce que sa femme aime. Quelle est sa couleur préférée ? Ne me posez pas la question quand même. D'accord ? Quel est son plat préféré ? D'accord ? Quel est son fruit préféré ? Ça, vous pouvez me demander. Hein ? Et donc, vous voyez, on dirait, ce gars-là, il est pas, il dit qu'il aime sa femme, mais c'est pas vrai. Et je me rappelle de frère qui m'a raconté cette histoire. Bon, il l'avait lu. Il disait, c'est quelqu'un qui vient vers son ami et qui lui dit, Jacques, par exemple, Jacques, il dit, est-ce que tu m'aimes ? Et Jacques dit, mais oui, tu sais bien que je t'aime. Et puis il dit à Jacques, mais Jacques, sais-tu ce qui me fait mal ? Et Jacques dit, non, je sais pas. Il dit, mais comment peux-tu me dire que tu m'aimes si tu ne sais même pas ce qui me fait mal ? C'est une manière de dire, parfois on peut dire qu'on connaît les gens, mais comment vas-tu, comment ça va, ok c'est bien, et puis on finit. Ici, il faut une connaissance approfondie des personnes. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, que les réunions sont importantes. La communion fraternelle, le dimanche après-midi, quand on se retrouve, c'est peu. L'église de Jérusalem se retrouvait tous les jours. Ils apprenaient à se connaître. On s'invite les uns les autres pour apprendre à se connaître. Parce qu'on ne peut aimer que ce que l'on connaît. C'est une erreur que nous nous mettons dans notre tête de croire que nous pouvons aimer les gens à distance, en gardant les distances. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour aimer, il faut connaître. Pareil pour Jésus-Christ. Pour l'aimer, il faut le connaître. Et c'est pour cela, d'accord, que nous avons la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans le chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens, il parle de cette excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il parle même d'arriver au point d'être conforme à lui dans sa mort et dans sa résurrection, tellement il va parvenir à le connaître. Et cette connaissance de Christ le rendra conforme à Christ. Nous ne pouvons pas être transformés à la même image à moins de connaître de plus en plus le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul dit, je prie que votre amour augmente pour Dieu, pour les frères et sœurs, en connaissance, que vous connaissez Dieu par une connaissance qui vous transforme, mais que vous connaissiez votre frère aussi et sœur par une connaissance qui vous transforme et qui vous montre qui il est, quel est son arrière-plan, et que vous ne pouvez pas parler de cette manière-là en face de lui sans risquer peut-être de le choquer, de le blesser, etc. Vous devez apprendre à vous connaître pour pouvoir vous aimer. Et puis ici aussi, il dit que cet amour grandit dans une perception, j'ai appelé ça une perception aiguisée, il dit une en pleine intelligence. Hein. Ce n'est pas ici une question de QI, hein, mais de sensibilité, de perception juste des choses. L'amour pour Dieu et pour son peuple amène à une perception spirituelle chez le croyant. Et c'est son sens des priorités est développé et de plus en plus, il apprend à choisir les choses qui sont les choses les meilleures. On a un exemple dans l'Épître aux Hébreux où il est dit, nous avons beaucoup de choses à vous dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes matures, ceux dont le jugement, c'est le même mot, intelligence, le sens, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ici, hein, il y a un sens, une perception des choses qui vient lorsque l'on apprend à discerner et à choisir toujours, toujours ce qui est meilleur. Et cela se fait lorsque l'on apprend à aimer Dieu et à aimer les frères et sœurs de plus en plus. Je termine avec quelques conclusions ici. Cette prière de Paul nous enseigne, chers frères et sœurs, que nous avons besoin de prier cette prière pour nous-mêmes et pour les uns pour les autres. La prière de Paul est à la fois une instruction sur ce qu'il demande à Dieu pour les frères de Philippe, mais aussi un modèle que nous puissions imiter, un modèle de prière que nous pouvons imiter. Et nous avons besoin d'apprendre à prier vraiment les uns pour les autres. Et prier de bonnes choses les uns pour les autres. Prier que Dieu nous donne un esprit de discernement pour les choses les meilleures. Prier que notre amour augmente de plus en plus pour Dieu, pour les frères et sœurs, afin que nous soyons capables les uns les autres de discerner dans les différentes situations où nous nous trouvons ce qui est le meilleur. Et quelqu'un a écrit, c'est Arthur Pink qui écrit que la mesure de notre amour pour les autres peut en grande partie être déterminée par la fréquence et le sérieux de nos prières pour eux. Non seulement on prie souvent pour eux, on prie avec sérieux et on demande à Dieu pour eux des choses profondes, comme le discernement des choses les meilleures et l'amour qui augmente pour ce discernement. Deuxièmement, cette requête de prière inspirée nous pousse à nous demander dans quel domaine nous avons besoin ici de discerner le meilleur. Et je vous propose quelques domaines, vous pouvez en trouver d'autres, dans la gestion de notre temps, par exemple. On entend dire souvent, moi je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps car j'ai beaucoup de travail. Enfin, on dit ça, hein. Je ne peux pas rester à la réunion parce que j'ai beaucoup de travail, soit à faire pour demain au bureau, ou soit beaucoup de travail de classe. Hein. Pas le temps pour les études bibliques, pas le temps pour les réunions de prière, pas le temps pour participer à tel ou tel groupe d'enseignement. Comment est-ce que nous utilisons notre temps? Eh bien, il faut nous poser la question de est-ce que nous utilisons notre temps de la meilleure manière qui soit? La lecture de bons livres chrétiens ou la télé-réalité, par exemple. J'espère que ce n'est pas ça. Hein. Ou le Facebook, le Snapchat, ou je ne sais plus, hein, ça prend beaucoup de temps. Alors, on a le temps pour beaucoup de choses, mais il faut nous poser la question du temps pour l'étude de la parole de Dieu. L'amour qui abonde toujours plus pour le Seigneur et pour les autres conduit à discerner la meilleure utilisation du temps que le Seigneur nous confie. Le domaine financier, par exemple. Est-ce que nous discernons la meilleure utilisation des moyens que le Seigneur nous a accordés? Sommes-nous généreux dans l'œuvre du Seigneur, à l'image des chrétiens de Philippe, qui se sont sacrifiés pour l'apôtre Paul et puis pour l'église de Jérusalem, par exemple? Est-ce que nous connaissons la joie de donner ou est-ce plutôt la peur de manquer? Parfois, on peut être guidé par ce genre de sentiments. Quelles questions nous posons face à un futur achat, ce vêtement, ça c'est comme ça que j'aime m'habiller, ou cette marque de voiture ou ce type de maison. Est-ce que dans ces domaines, nous demandons au Seigneur de nous guider pour le meilleur? Si on aime Dieu et si on aime les autres, on choisira le meilleur. Si on aime notre église, on ne choisira pas d'habiter très loin. D'accord? Après, on peut avoir envie de changer, c'est juste un exemple pour vous montrer que l'attachement que l'on a pour quelque chose détermine ce que l'on va choisir. D'accord? Parfois, on dit aux gens, c'est loin, c'est très loin, tu ne pourras pas venir aux études bibliques le soir. Je vais faire l'effort, si, je t'assure, je viendrai. Et puis des fois, mais c'est pas possible. Les embouteillages sont là, ils sont pour tout le monde, c'est pas possible, d'accord? Donc parfois, il faut réfléchir. Peut-être c'est la meilleure chose à faire, mais peut-être c'est pas la meilleure chose à faire. Il faut que Dieu nous guide là-dessus, qu'on ait le réflexe de demander au Seigneur ce qui est le meilleur. Dans le domaine des relations, de nos paroles, de nos réactions, quelle est la meilleure attitude dans ces situations? Moi, je n'aime pas qu'on me titille, disent certains. Si on me cherche, on me trouve. Mais est-ce que c'est ainsi que le chrétien doit réagir? Ou est-ce qu'il doit dire, quelle est la meilleure attitude, quelle est la meilleure réponse que je puisse avoir dans cette situation? Seigneur, aide-moi à trouver ce qui va procurer la paix. Aide-moi à trouver ce qui va édifier mon frère. Aide-moi, je t'en prie. Quand on prie comme cela, on apprend à aimer, on apprend, et le Seigneur nous donne du discernement. On ne peut pas nous abandonner à notre penchant naturel. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Ici. Et puis je termine en disant, ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas interdite formellement par l'Écriture que le choix de cette chose est la meilleure option. Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas formellement interdite par les Écritures que le choix de cette chose est la meilleure option. Il y a des gens qui disent, montre-moi où c'est interdit dans la Bible. Là, montre-moi. Si tu peux me le montrer, d'accord, je vais suivre. Mais si ce n'est pas là-dedans, tu ne peux pas m'empêcher de le faire. Montre-moi que je ne peux pas écouter ce type de musique. Montre-moi où c'est écrit que je ne peux pas manger du boudin rouge, si vous êtes antillais. Hein. Ou je ne peux pas boire de vin. D'accord ? Il y a des gens qui disent ça. Bien sûr, la Bible ne dit pas qu'on ne peut pas faire ces choses. D'accord ? Et l'apôtre Paul, elle ne dit même pas que ces choses sont impures ou qu'elles sont mauvaises. Il dit que ce qui doit me régir, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait de l'interdiction d'une chose. Le chrétien ne dit pas ça, c'est interdit, ça c'est permis, je ne fais pas. Il ne réfléchit pas comme ça. Il est à un niveau beaucoup plus élevé que ça. Il se situe à des stratosphères de ce niveau de réflexion. Le chrétien, celui que Dieu a sauvé, sait que ce n'est pas l'absence d'interdiction qui est le guide suprême, mais le discernement du meilleur, ce qui va permettre de procurer la paix et l'édification. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, il dit, si je mange de la viande, ça ne me rapproche pas de Dieu. Si je ne mange pas, ça ne change rien. Il dit, manger, ne pas manger, ça ne fait rien. Il dit, mais par amour pour mon frère, j'ai décidé, je ne mangerai jamais de viande. Il ne pêche pas s'il en mange, il ne pêche pas s'il n'en mange pas, mais il pêche s'il en mange et que cela cause la chute de son frère. Alors il dit, pour un aliment, je ne vais pas perdre mon frère. Et je peux faire le sacrifice d'une liberté sur un aliment, sur une boisson, sur une amitié ou sur quelque chose de ce genre. Parce que c'est le frère pour lequel Christ est mort. C'est-à-dire pour lequel Christ a abandonné son ciel de gloire et est descendu dans une humiliation la plus basse qui soit. Lui, il a abandonné des choses. De riche qu'il était, il est devenu pauvre. Voilà l'écart qu'il a traversé pour sauver ce frère. Et toi, tu n'es pas prêt à faire une croix sur un aliment. Et tu dis que tu aimes. Voilà le vrai exemple d'amour. Et donc, ce qui nous dirige, ce qui nous régit, ça n'est pas l'interdiction ou la permission même, la possibilité de faire une chose. C'est l'impact que cette chose aura sur les autres si je la fais. Et si j'aime Dieu, je chercherai toujours à lui plaire en cherchant le bien des frères et sœurs qu'il a mis à côté de moi. Discerner les choses les meilleures, chers frères et sœurs, c'est important. C'est important. On a vu les caractéristiques de ces choses, des choses qui contribuent à la paix et à l'édification pour tous. Et aussi, le moyen d'arriver à cela, c'est de prier que Dieu nous fasse aimer les uns les autres de plus en plus. Je termine juste en disant que l'apôtre Paul ne dit pas aux Philippiens, discerner les choses les meilleures. Il dit, je prie que Dieu fasse abonder son amour en vous, que vous aimiez d'un plus en plus Dieu et les frères et sœurs pour discerner les choses les meilleures. Autrement dit, il dit, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez avoir naturellement. Il faut prier pour cela. Et c'est pour cela que nous voulons nous engager à prier pour cela, parce que nous n'avons pas la force d'accomplir ces choses par nous-mêmes. Nous avons besoin que le Seigneur nous donne cela, qu'il fasse abonder de plus en plus cet amour dans notre cœur. Et c'est pour cela que nous devons prier cela pour nous-mêmes et les uns pour les autres. Prions. Nous te remercions, notre Dieu, pour ta parole qui nous conduit. Oui, c'est toi qui commences cette bonne œuvre en nous. Et c'est toi qui la conduiras à perfection. Et nous savons, Seigneur, qu'entre ce commencement et cette fin promise, tu vas agir aussi dans nos cœurs pour développer ces choses. Mais nous voulons te prier que nous puissions nous soumettre à ta parole. Donne-nous un cœur aimant pour ta parole, pour ta personne, un cœur qui aime davantage les frères et sœurs. Donne-nous un amour qui déborde, comme nous avons lu, un amour qui abonde toujours plus. et encore et encore, afin que nous soyons capables de discerner ce qui est le meilleur pour être purs pour le jour de Christ. Nous voulons vivre avec cette pensée du jour de Christ et ne pas limiter nos pensées, nos cœurs, nos appétits à cet instant présent seulement. Guide-nous, nous te prions, par ton esprit.